Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'antredugeek.net.
Jay? Feast your eyes on this. The all-new Napa Crapper 9000. You'll never have to get off your fat, lazy butt again. The Napa Crapper has every amenity. A built-in color TV. It adjusts to you so you don't have to move. No more trips to the kitchen during commercials. Better yet, no more annoying trips to the bathroom. Your television viewing never has to be interrupted. And of course, win or lose, every contestant takes home a set of Encyclopedia Satanica. And now it's time to play You Can't Win.
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier et aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Balvino et je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jean. Mais là, en tout cas, ceux qui regardent live savent que j'ai triché, j'ai menti, mais c'est pas grave. Vas-y David, ça va?
Bonjour, vous mes chers amis.
Ben oui, ben vas-y.
Ça va bien, mais c'est une émission, ouais c'est ça, j'allais dire c'est une émission, une émission. Un épisode de Vision X, tout à fait hors de l'ordinaire. Pour la deuxième fois, nous invitons François Gagné à se joindre à nous.
Ouais. Hey! Salut! Salut les gars!
On applaudit.
Très content d'être là.
Ouais. Comment ça va, François?
Ça va bien, ça va bien. Il fait chaud.
Oui, effectivement. Bienvenue au mois de juillet.
Quand il y en a qui disent « Ah, hey, on ne chialera pas trop, il n'a pas fait chaud de l'été. » Non, moi je t'ai écœuré déjà là.
Non mais tu vois, ça je suis un peu, je comprends pas cette philosophie. Je vois, je râlerai pas, il a pas fait chaud de l'été. Non mais, je m'en fous qu'il ait pas fait chaud de l'été. Là, il fait beaucoup trop chaud, tu sais, ça change rien. C'est pas parce qu'il faisait frette avant que là, je devrais pas avoir le droit de chialer. Je m'excuse, là. Je chiale. Non. C'est dégueulasse à l'école, là. Il fait genre 40 coques dans les locaux, là. C'est la merde.
Puis en plus, essayer de dormir à cette température-là, c'est dégueulasse. Ouais. Et on passe pas de belles nuits, malheureusement.
J'ai deux mots pour vous. Air climatisé. Moi, je dors très bien.
Ouais. Un jour, peut-être. Un jour.
Ben oui, fait que, ce soir, François est avec nous, comme il avait été avec nous, ça fait presque un an, là. En fait, c'est genre en octobre, novembre, 2016?
Ouais, il me semble. Ouais, je pense que oui, c'était au mois d'octobre. Il faudrait vérifier les archives.
Oh, on est rendu à un moment donné, on a perdu, on n'est pas capable de compter jusqu'à là, nous autres.
Hein. C'est David c'était et moi, quoi là. Le film que t'avais vu avec nous, François?
C'était Jaws.
Jaws, ah oui, c'était Jaws.
On avait fait un film, on avait fait un épisode sur Jaws qui... C'est un très bel. En tout cas, moi, j'ai eu de très bons souvenirs de cet épisode-là. Là. Ça a été bien fun. On a jasé beaucoup de musique.
Ah, ben, tu sais, on va pouvoir se reprendre aujourd'hui. Mais moi, les gars, je vous suggère qu'on aille direct dans le vif du sujet, comme on est trois, puis, pas perdre de temps. Ah, ouais, de même, à frette. Pas de préliminaire. Let's go. David, présente-nous le film de la semaine.
Cette semaine, nous avons écouté le film Stay Tuned de 1992. Oui, 92. Donc, le synopsis, c'est qu'en fait, le diable essaie de voler des âmes de la Terre en les obligeant à passer 24 heures dans la télévision. Et donc, nos protagonistes, les deux acteurs... Ben, le couple principal se doit donc de passer d'une émission de télé à l'autre et réussir à survivre pendant 24 heures afin de retourner chez eux et non de rester en enfer. C'est la prémisse du show, mais vraiment, en fait, il s'agit d'une série de clips qui s'enchaînent les uns aux autres. Une formule que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup ça. D'ailleurs, j'avais une capsule littéraire aujourd'hui, mais on va passer à travers ça. J'étais en train de lire un livre rempli de petites nouvelles
Ah, c'est le
fait que ça me fait penser justement à ce type-là, de ce film-là, qui ressemble beaucoup à ça.
Fait que David, il aime les choses qui s'enchaînent une derrière l'autre. Comme ça.
Moi, j'aime ça les affaires courtes.
On va écouter Human Centipede. Donc, écoute, on va... François...
Je voudrais juste rajouter que ce film était une suggestion de François. Donc, moi, je commencerai avec une question. François, pourquoi tu nous as programmé ce film-là? Parce qu'on s'entend tout de suite, là, c'est quand même bon comme film.
Oui,
donc, mais c'est pas extraordinaire, mais c'est pas vraiment mauvais non plus. Donc, qu'est-ce qui a motivé ton choix?
Ben, écoutez, je vais essayer de faire une histoire courte parce que après mon passage à l'émission, je savais que je devais revenir, que je reviendrais un an plus tard. Donc, j'ai essayé de penser quel autre film que je pourrais parler avec vous, et ça me tentait de faire un film que je connais et pas vous nécessairement. Donc, trouver une perle rare, soit un film extrêmement mauvais, j'en ai parlé beaucoup avec Sébastien, à chaque fois, je dis « Ah, on va faire ce film-là! » Puis après ça, je changeais d'idée, puis à chaque fois, je voyais sa face en faisant « Ça a l'air bizarre ce que tu vas nous faire écouter. » Mais pourtant, c'était toutes des excellentes suggestions, mais on va peut-être
écoute, le nombre de choses bizarres que David m'a fait écouter, là, j'ai pu... Non, en même temps, le nombre de choses bizarres que j'ai fait écouter à David aussi...
Oui, non, mais c'est donnant.
On est immunisé.
Après, you raise your head, là, tu sais.
Puis la raison pourquoi je suis arrivé avec Stay Tuned, c'est qu'à un moment donné, je me suis rappelé de ce film-là, puis j'avais vu un post sur un site qui parlait de Stay Tuned, puis ça m'a juste fait comme « Oh, je connais ce film-là, j'ai de bons souvenirs quand j'étais jeune d'avoir écouté ce film-là. » Je me rappelle qu'on l'avait loué peut-être 2-3 fois. Mon père, des fois, il nous... Tu sais, ce qui arrivait, tu sais, dans les années 90, qu'on allait louer des films au Club Vidéo. Ah. Il y avait tout le temps... Bon, il y avait les nouveautés, et ben dans mon club de vidéo de région, il y avait aussi les vieux films qu'on pouvait en avoir deux pour à peu près même pas... je pense que c'était une pièce le film pour la locale.
François, j'ai une question pour toi. Dans ton clip vidéo de région, les nouveautés, là, genre, c'était-tu les films de 2 ans avant? Genre?
Non.
OK. les nouveautés, mais les vieux films, ils étaient de la même année, tu sais.
Les samedis, ce qu'on faisait quand j'étais jeune, c'est qu'on louait une nouveauté qu'on écoutait toute la famille ensemble en soupant. Et mon père nous louait des films, des vieux films, qu'on écoutait avant le souper dans la cave. Et justement, ce film-là, Stay Tuned, en français qui s'appelait Télémaniac,
ouais.
On l'écoutait plusieurs fois. J'adorais ce film-là, juste le principe de rentrer dans la télévision. Je trouvais ça hot. Puis ça m'a pris des années à retrouver c'est quoi exactement ce film-là. Puis bon, ce que j'avais peur en le revoyant, c'est de me dire... OK, je le revois, puis ça gâche carrément mon enfance, comme tous les films qu'on regarde.
Ouais.
On a eu plusieurs films comme ça à Vision X dernièrement.
Exactement. Puis, my God, j'ai ri là, du début à la fin de ce. Ça m'a rappelé, en tout cas, ça doit être la nostalgie, mais je me suis rappelé d'excellents souvenirs, puis je me disais, hey, ça a quand même bien vieilli malgré tout.
Ben, tu sais, parlons un peu justement du scénario, puis je vais aller à David, là, je vais t'envoyer ça, là. Écoute, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, c'est ça, comme je disais tantôt, moi, le concept d'un enchaînement de petits sketchs, j'adore ça. Je trouve que ça fait en sorte qu'on n'a pas le temps de se tanner d'une esthétique ou d'une scène, puis tout de suite, on passe à autre chose. Puis ce qui fait aussi, dans le cas d'une comédie comme le film qui nous intéresse, ça fait en sorte que ça devient punché. T'sais, c'est facile de trouver rapidement le caméo dans lequel on se trouve et de faire des jokes là-dessus, mais ça n'a pas le temps de s'essouffler parce que 5 minutes plus tard, on est rendu dans un autre caméo avec des nouvelles blagues. Donc, je trouve ça vraiment efficace, en fait, la structure de ce film-là. Puis en plus, à la fin, ça commence à se promener super rapidement, une espèce d'accélération. Tu sais, à un moment donné, il y a le diable. En fait, c'est pas le diable, là, c'est...
Spike. Ouais, c'est
ben, je pense qu'il travaille pour le diable. Tu sais,
il travaille pour le diable, en tout cas, mais on se comprend. Là.
Et là, pour les
c'est ça. Donc, le méchant, lui, il fait partie de l'histoire avec notre personnage principal. Puis là, les films s'enchaînent, les téléséries s'enchaînent les unes avec les autres. C'est super drôle. C'est vraiment, vraiment... ça fait en sorte que le rythme est intéressant. Puis c'est frais, c'est nouveau. Moi, j'ai adoré ça.
Mais écoute, ce qui est fun dans ce...
Je veux juste situer là, les gens par rapport à qui est Spike. Spike, c'est comme, mettons, le directeur de la programmation de TVA. Puis le diable, c'est Pierre-Carl Pelado. Fait que tu sais, je pense que tout le monde comprend, là. Fait que c'est beau. Vas-y, François.
Au lieu de son point, c'est une télécommande.
C'est ça. C'est, au lieu de faire que tu sais, un pays indépendant, il fait avec sa télécommande.
Non, mais tu sais, pour nous qui avons grandi dans les années avec la culture pop des années 90, ben, la plupart des même 80-90, la plupart des sketchs, des parodies qui est dans le poste de télévision, on les comprend.
Ouais.
Parce que on a tous déjà vu quelque chose qui a rapport avec ça.
Ben, tu soulignes un très bon point, François. On se rappelle que premièrement, c'est vraiment typique de l'époque, il me semble, là, avec les sketchs d'RBO, Samedi PM. C'était un peu
dans la mouture, que ça de Day Night Live aussi. Hein.
Aussi, oui, c'est exactement ça. Hein. Donc, évidemment, ça fait référence à beaucoup de shows télé. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais bref, ça fait référence à beaucoup de shows télé qu'il faut avoir connu un peu. Tu sais, je veux pas en nommer parce que ça va pas faire partie de ma question du geek. Mais bref, on passe vraiment à travers plein de choses, mais il faut les connaître un peu.
Mais tu sais, ce que j'aime aussi, c'est on a grandi dans les années 80, 90. Tu sais, à partir des années 60, ben la télé est arrivée dans les années 60. Déjà 70, la culture du TV dinner puis de on mange devant la télé s'est installée. Dans les années 80, c'était quand même fort, là. Je veux dire, je crois que, en tout cas, je peux pas parler pour vos familles, là, mais nous autres, ça nous est arrivé. Tu sais, à un moment donné, on avait à la maison, tu sais, les petites tables, là, qui se mettaient devant le sofa, là, qui servaient juste à glisser en dessous.
J'en ai encore deux comme ça à la maison.
Tu vois, on avait ça, puis ça nous est arrivé de manger. J'ai mangé des TV dinner quand j'étais petit. Écoute, avant d'avoir un micro-ondes, je me souviens, là, tu sais, c'était des TV dinner qui allaient au four, parce que c'est pas tout le monde qui avait un micro-ondes dans les années 80. Là. Fait que, tu sais, l'espèce de culture de côté du gars, là, qui est comme plugué devant la télé, là, c'est très fin 80, début 90, parce qu'aujourd'hui, on chiale que les enfants sont plugués devant les écrans, là. Sérieux, là, c'est pas nouveau. Là.
Ça date pas d'hier.
C'était comme ça quand on était petit. C'était que les enfants, ils vont pas jouer dehors. Ils vont pas jouer dehors. Ils sont tout le temps devant la télé. Là, aujourd'hui, c'est nous autres qu'on a des enfants. T'sais. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qu'on dit? Oh, les enfants sont tout le temps devant leurs écrans, leurs tablettes. Là, si. Nous autres, là, quand on était jeunes, on allait tout le temps jouer dehors. Ben oui, mais on passait la plupart de notre temps planté à 6 pouces de la télé. T'sais.
Le nombre de fois que j'ai écouté Star Wars épisode 6 devant la télévision. En tout cas, bref. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne quand même à notre film.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que moi, je me suis exprimé sur le scénario, mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Vas-y, François. En tant qu'invité, les invités d'abord.
Ben moi, premièrement, je veux dire, c'est un scénario, c'est une comédie. Une comédie est là pour vous faire rire, mais tu sais, comme tu as dit aussi, le rythme dans lequel les scènes s'enchaînent, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça marche bien. Puis l'histoire est quand même intéressante. Ça parle d'une famille dont le père est carrément accro à la télé. Quand je dis accro, c'est qu'à chaque fois qu'il voit un vieux film classique, il connaît toutes les répliques, puis il les dit devant. Il y a un match de sport, il y a un match de basket, puis il essaie de contourner la conversation qu'avec sa femme, justement pour regarder le match aussi en même temps. Tu sais, le gars, il est tellement à l'accro à la télé, il ne vit que pour la télé.
Sais-tu à quoi ça me fait penser, François? Ben, tu dis ça de même, là? En fait, ça me fait penser à deux choses. Homer Simpson. Il y a un côté très Homer Simpson à ce personnage-là. Puis le truc de Pérus, là, où genre le gars, il écoute le hockey, puis sa blonde essaie d'y parler, là. Tu sais, la scène où il écoute le match de basket, tu viens d'en parler, puis ça m'a popé dans la tête, là, c'est la même affaire. Il te l'a-tu rentré?
C'est ça, l'histoire s'enchaîne bien, on sait où est-ce qu'ils s'en vont, on sait comment ils doivent quitter le monde de la télé, puis tu sais, il y a un petit... Puis à la fin, ben, le gars doit aller sauver sa femme, puis ok, spoilers, il doit retourner dans la télé pour vaincre Spike.
Ah, mais c'est parce qu'on a passé les deux semaines de, de spoilers.
Les deux semaines de Vince Gilligan sont passées.
Mais non, ça s'enchaîne bien. C'est pas emmerdant, c'est super intéressant comme histoire.
Moi, mais j'avoue que c'est peut-être un peu prévisible la suite des trucs là.
Comme beaucoup de suites dans ces années-là.
Oui, effectivement. D'ailleurs, je pense que tu soulevais le point dans les shows, non, Sébastien?
Oui, c'est ça. Ben, c'est une des affaires qui m'a un peu gossé du film, dans le fond. Ben, en fait, c'est le genre de film que faut pas... Scénario côté histoire, pensez-y pas. Là, parce que le film n'a pas commencé que vous savez comment il va finir. Là. C'est certain. Là. Comédie familiale de base. Tu sais, c'est un sujet quand même qui était très des années 90, très de fin des années 80. Parce que, bon, on a... vécu. J'aime ça. À ce moment, je me sens comme un sociologue, quelque chose. Je suis en train de rattacher tout à un contexte social de l'époque. Là. Mais des années 80, le film est sorti en 92, donc il est fortement influencé des années 80. C'est aussi l'époque du début de l'éclatement, disons, de la plupart des familles. Je veux dire, le divorce puis devenait quelque chose de courant. Là. Donc, on a eu une série de films puis d'histoires de famille qui est en train de s'éclater, tu sais, puis que finalement, il y a quelque chose qui a sauvé la famille. C'est devenu très populaire. Fait qu'on est dans ça. T'sais, tous ceux que vous avez vus dans ce genre-là, c'est la même histoire. La famille est en train de chier. Il y a un événement qui arrive. Puis ça rate. Les parents finissent ensemble.
Tu sais, combien de films qu'on a vus dans ce genre-là, à peu près, que les deux parents sont dans une espèce de crise existentielle de couple, sont sur le bord de peut-être se laisser parce qu'il y a quelque chose. Et finalement, ben, t'as les enfants qui sont là pour les aider. T'as tout le temps t'as le petit génie qui est là puis qui va faire comme toutes les brillantes idées et sa sœur en arrière qui y croit pas, mais qui va finir par suivre pareil.
Mais ça, tu soulèves un point intéressant dans le. Ben, ce qui nous amène un peu au personnage, en fait, mais c'est vrai que dans les films et les téléséries des années 90, il y a très souvent le petit génie. Évidemment, Ron Wesley.
Wesley Crusher.
Wesley Crusher, c'est ça. Dans Star Trek The Next Generation, qui était vraiment le petit génie, mais je ne sais pas si vous avez écouté d'autres séries ou si vous vous souvenez d'autres séries dans les années 90. Moi, j'avais écouté SeaQuest aussi.
Oh boy. Ben oui, SeaQuest, on en a parlé à Jazz.
Ah oui, ça se peut.
Oh oui.
Ah oui, ben oui, évidemment, parce que la capitaine... Bref, c'est vraiment un autre cliché de l'époque des années... du tournant des années 80-90. Mais justement, j'aimerais ça qu'on passe à travers la liste de nos acteurs, si vous permettez, les gars. Avec John Ritter, qui joue le rôle de Roy... Nable,
oui. Fur John Nable. Ritter. Je vais me prononcer sur John Ritter.
Donc, c'était l'anniversaire la semaine dernière.
L'année dernière. Écoute, c'était sa fête l'année passée, puis c'était sa fête l'année d'avant aussi. Mais en fait, il est mort, fait que c'est plus sa fête depuis
le bout. Il est mort d'un problème cardiaque.
Ouais. Écoute, John Ritter, on s'entend là. Années 80-90 par excellence.
C'est vraiment.
Dude qui représente cette époque-là. Écoute, juste de même, je vais regarder vite sa filmographie. Là.
Il fallait que je dans Le Petit Monstre.
Oui, c'est lui qui fait...
Three's Company, Sling Blade...
Il faisait toujours le père. C'était le papa. Le papa de papa.
Ben oui, c'est le papa du Petit Monstre.
Ah, il a joué dans Bride of Chucky.
Ouais. Oh, ça, c'est dans ses derniers rôles. Puis
il a joué dans Hawaii Five-O.
Pardon?
Il a joué dans un épisode d'Hawaii Five-O, dans un épisode de MASH.
Il a fait beaucoup de choses.
Starsky and Hutch. Il a joué dans un épisode dans The Love Boat. Qui n'a pas joué dans The Love Boat? Avouez que ce serait débile qu'il refasse une émission comme ça. The Love Boat. En 2017. Mais bref, écoute, il fait le rôle de John Ritter. C'est le personnage qui joue dans tous les films. Oui. Je sais pas, toi, François, qu'est-ce que t'en penses?
Oh oui, non, mais ça ressemble pas mal à ce qu'il a fait dans ses autres rôles précédents, surtout au niveau de la comédie quand il est mis en évidence. Mais il est bon dans ce rôle-là. Je veux dire, je le vois, puis c'est John Ritter, il me fait rire.
Ouais.
J'ai rien à dire, c'est pour ça. Il est très bon.
Toi, David?
Je l'ai trouvé égal à lui-même. C'est pas un rôle de composition. Là. Ça prenait pas un acteur, comment il dit ça, les method actors. C'est pas ce genre d'acteur-là du tout. C'est pas le genre de personnage qui requiert ça non plus. Mais on dirait que tu viens d'avoir un orgasme, Sébastien.
Non, non, non.
C'est juste fâché, François.
Il fait ça pour m'écœurer. C'est ça.
Mais bref, oui, j'ai ça, je l'ai trouvé égal à lui-même, mais tu sais, sans plus. Là, c'est vraiment le genre de rôle dans lequel on l'a vu encore et encore et encore. D'ailleurs, ça rend les choses un peu dommage, je trouve, parce que ça... Comment je pourrais dire ça? Il aurait pu donner une saveur au film en particulier. T'sais, lui, t'sais, il aurait pu créer un arc unificateur à travers ces sketchs-là. Mais je ne suis pas convaincu que ça a réussi. Moi, je trouve que ça manque peut-être un fil conducteur dans ce film-là. C'est peut-être le défaut du scénario.
Ouais, mais je me demande, anyway, un autre acteur dans ce même type-là, il aurait-tu fait mieux? Pour le rôle dans ce rôle-là. On ne sait pas.
Il aurait dû me demander. Je l'aurais fait. Puis...
Ben ouais.
c'est vrai. Écoute, mais tu sais, c'est pas un mauvais acteur. Le gars, il a gagné quand même. Il a gagné un Emmy pour Three's Company. Il a gagné un Golden Globe pour Three's Company. Three's Company, c'est quand même une série assez culte là, dans l'histoire des comédies américaines de début des années 80. Puis il a gagné un People's Choice Award pour Hooper Man, pas pour Three's Company. Mais il est pas mauvais. Mais c'est ça. C'est comme tu dis, il n'y a pas trop de profondeur. C'est le rôle générique de papa. C'est très, très américain.
Ouais.
Extrêmement cliché américain. Là,
je dirais quasiment il est dans le moule du père de famille dans une comédie américaine.
Mais je dois dire qu'il y a une chose que j'aime, que j'ai vraiment aimé du scénario, par contre j'ai oublié d'écrire les notes. Je viens d'avoir un flash en parlant du cliché américain. Ce film-là parle d'une chose qui quand même à l'époque était pas si parlée que ça. C'est un père de famille, mais sa femme fait beaucoup plus d'argent que lui.
Mm-hmm.
Okay? C'est une... Tu sais, haut placé dans une compagnie. Fait qu'il y a tout ce côté-là où le rôle de l'homme dans les années 80 a complètement changé. Et ce gars-là, il est comme... il est pas bien, il sait pas quoi faire, tu sais. Parce qu'il est habitué, il était habitué. La société avant disait que l'homme avait tel rôle. Mais là, c'est pour ça qu'il a comme rôle. Et en bout de ligne, il finit par... justement faire comme ben de la merde, tu sais, je veux dire, je veux faire ce que j'aime dans la vie parce que justement ma femme gagne beaucoup d'argent puis ça me permet ça. C'était quelque chose de nouveau très nouveau à cette époque-là, puis je trouvais ça quand même cool de voir ça. En bout de ligne, John Ritter était probablement la personne parfaite pour faire ça parce que dans son espèce de côté innocent puis ça, il rendait bien ce père un peu perdu dans son dans son rôle de mâle qui avait changé.
The couch potato.
Maintenant, Pam Dauber, qui faisait Ellen Nabel. David, qu'est-ce que tu pensais d'elle?
Quel petit rôle. Tout petit. C'est une chicken and a bucket, là, mais...
Ce n'est pas parce que la femme dans l'histoire gagne le plus d'argent et que c'est comme quelque chose d'un peu moderne de fin des années 80 que le rôle de la femme dans le film était, lui, moderne.
Mmh. C'est ça, c'est parce qu'elle occupe l'espèce de double rôle de MacGuffin, parce que son mari doit aller la sauver, mais aussi d'héroïne du film, parce qu'une bonne partie du film, elle seconde son mari, sont une équipe à passer à travers les obstacles, les scénarios. Mais ça fait en sorte qu'elle est comme complètement obscurcie par la présence de John Ritter. C'est dommage. Puis j'en parle depuis plusieurs mois. Là, depuis que ma petite fille est née, je suis toujours à la recherche de modèles féminins forts dans mes films, dans mes téléséries. Et d'ailleurs, je suis très satisfait du dernier Star Trek pour ça. Là. Star Trek Discovery.
Je l'ai pas vu encore.
On
ne parle pas de ça. Je l'ai pas vu encore.
Mais là, on est encore dans le deux semaines pour les Star Trek. Là, fait qu'il faut pas en parler. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que la place qu'on lui donne à Pam Dauber. Dauber? D-A-W-B-E-R.
Attends, moi je pense
que c'est... Helen Nabel.
Dauber.
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 C'est ça, je trouve que la place qu'elle occupe n'est pas assez grande. Maintenant, est-ce que l'actrice aurait pu prendre plus de place? Peut-être. C'est pas non plus un rôle de composition. Il n'y a pas beaucoup de scènes où est-ce que on sent qu'elle est particulièrement en détresse. C'est un peu... Bah, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous
avez dit, c'est comme tu dis, je suis très d'accord. C'est très petit comme rôle. Elle fait pas grand-chose. Oui, elle épaule son mari. Mais tu sais, je veux dire, toute la moitié du film, elle fait juste être en crise contre lui. Puis elle crie quasiment après lui tout le temps. Puis à un moment donné, ben, quand elle devient comme... Elle devient la personne kidnappée que le mari doit aller sauver, ben là, ben, elle crie « Viens me sauver, viens me sauver. » Mais non, mais... Comment pour dire? Je veux dire, elle fait bien son rôle, mais tu sais, c'est tellement petit qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Elle a peut-être quelques lignes qui ont été bien punchées dans le film, mais tu sais, c'est pas assez pour dire que...
Ouais, moi...
Bon pas sa prestation. Là.
Ce qui me gosse, c'est pas elle. C'est un peu ce qu'ils ont fait de son rôle. Dans le sens, elle commence, elle est très forte. Puis là, elle a besoin d'un homme pour la sauver. Puis c'est comme si ça dit dans le film, comme, ah, tu sais, les hommes, ils ont plus besoin. Tu sais, ben, je reviens à mon lien de tantôt. C'est les hommes, on n'est plus ceux qui font vivre la famille. Là. On n'est pas celui qui, mais les femmes ont quand même besoin de nous. T'sais.
Moi, c'est à cause de nos gros bras.
Tu sais, c'est comme non man, les femmes ils ont pas besoin de nous autant que, sais-tu quoi, on a pas besoin d'eux non plus. Je veux dire, c'est juste ça qui me gosse. T'sais. Elle perd son indépendance pendant le film, puis je trouve ça plate que c'est la montée du gars qui trouve son identité puis qui trouve ce qu'il veut faire qui fait que son personnage perd son indépendance. C'est un peu poche, t'sais. C'est comme ça revient, mais c'est très... On est encore très influencé dans les années 80. On n'est pas. Ben, quoi qu'il y a du monde qui en 2017, ils sont pas rendus là. Je veux dire. Surtout s'ils travaillent à Radio X ou à Québec. Là. Mais. mais. j'ai rien dit, mais là. J'ai toussé. OK? On salue tous nos auditeurs de Québec. Mais. On va continuer avec d'autres personnes qui jouent dans ce film-là. Jeffrey Jones.
Oh, yeah.
Jeffrey Jones.
Ça, c'est notre méchant favori des années 80.
Ah ouais, man.
En moustache, mais excellent.
Écoute, vas-y, David, parle-nous de Jeffrey Jones. C'est pas la première fois qu'on a parlé de Jeffrey Jones.
Non, on l'a vu dans... voyons,
Howard the Duck.
Excusez, c'était quoi le nom du film?
Howard the Duck.
Howard the Duck, c'est ça. Parce que quand vous parlez en même temps, mon ordinateur, il fait... En tout cas, bref, Howard the Duck, c'est ça. Puis évidemment, c'est lui qui faisait le directeur d'école dans First Bueller's Day Off aussi. Puis bon, c'est le méchant de service des années 80, ça. Puis
est-ce que je peux vous donner une liste de films dans lesquels il a joué? Parce que ça me tente. Juste ça, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, là, pour donner un contexte du gars qu'on parle, OK? Il a joué là, dans Amadeus, OK? Il a joué dans First Bueller's Day Off, c'est le directeur, Howard the Duck, Beetlejuice. Il y a quand même Who's Harry Crumb, qui est quand même un film des années 80 assez important. The Hunt for Red October. Il y a joué dans Stay Tuned. Ed Wood. The Devil's Advocate. Il a joué dans Stuart Little. Est-ce que vous vous souvenez? C'était méchant aussi.
Oh,
il a joué dans Sleepy Hollow.
Right.
Heartbreakers. Écoute. C'est
Mom
vraiment...
and Dad Save the World.
Ouais, Mom and Dad Save the World. Il a joué dans la série de Twilight Zone. Écoute, il a joué dans Tales from the Crypt, man. Il a joué dans Batman, The Animated Series. Il a joué dans The Zeta Project. Est-ce que vous vous souvenez de ce dessin animé-là? C'est qu'un robot.
Oui.
Il a joué dans Justice League. Il a joué dans Deadwood, dans la série Deadwood. Écoute. Ce gars-là, là, il a eu une omniprésence dans nos vies. Là. C'est débile. Là. Continuez. C'est tout ce que je voulais ajouter.
Ben, moi, je vais simplement dire, pour conclure mon idée sur sa performance dans ce film-là, et ma foi, très adéquate. J'aime beaucoup le move qu'il fait avec la télécommande qui lui sort de la manche.
Ah, ouais.
parce que c'est comme on le disait, c'est le méchant de service, tu sais, fait qu'il y a comme il y a le comment je pourrais dire ça, il y a le casting, tu sais, de l'espèce de travailleur du gouvernement un peu écœuré puis qui fait chier les autres parce que lui il transfère en fait ses mauvaises énergies. Il y a ça un peu dans le film. Moi j'avoue que je l'ai aimé. Qu'est-ce que vous en avez pensé, François?
Moi, je l'ai adoré. Moi, ce que Jeffrey Jones, c'est comme on le dit, c'est le méchant de service. Il fait à la merveille dans ce film-là. Il est à la fois sympathique et détestable. Tu sais, tu dis, je voudrais pas le rencontrer, mais en même temps, j'aimerais bien parce que il a l'air pas si pire que ça, mais.
Mais bref, moi, j'aimerais vraiment ça rencontrer l'acteur, tu sais, le personnage.
Ah non, je pense qu'il est encore. Aux dernières nouvelles, il est en prison maintenant parce qu'il y avait une affaire de pornographie juvénile.
Lui? Non.
Pas Jeffrey Jones.
Il s'est fait pogner dans les années 2000.
En 2002, il s'est fait arrêter pour possession. Il a demandé à un petit gars de 14 ans de poser nu dans les photos.
Ouais. Puis il s'est fait pogner une fois. Puis il avait dit, je ne le referai plus, c'est une erreur. Puis il s'est refait pogner une autre fois après.
Ouais.
Non.
En 2010, il s'est fait arrêter deux fois.
J'ai fait si.
Oh non.
Oh,
le Liga venait de détruire un de mes.
Ouais. Je suis désolé, David. Mais ça ne change rien pour l'acteur comme tel. Il fait le méchant à merveille. Le move de télécommande. Wow! Ouais. Puis, même le combat final à la fin à l'épée avec John Ritter à la fin. Là. C'est bien. Puis, tu sais, à la fin, il est pris, puis tout ça, puis il essaie de s'en sortir pareil, puis tu fais non, tu t'en sortiras pas. Là. Puis là, il voit son ancien acolyte qu'on parlera peut-être plus tard, qui fait comme. Qui lui donne la monnaie de sa pièce, mais. Non, Jeffrey Jones, ça a été le bon méchant de service de nos années 80-90.
Moi, c'est vraiment Howard the Duck qui m'avait marqué. Je veux dire, le souvenir que j'ai de lui petit, c'est Howard the Duck. Quand il devient méchant, il me faisait peur quand j'étais petit dans ce film-là. Mais,
je comprends.
Vous avez tous.
J'avais plus de souvenirs avec Ferris Bueller.
Non, mais c'est parce que quand j'étais petit, c'était moins marquant, Ferris Bueller, c'était vraiment Howard the Duck. Puis je vais répondre à Yves, là, qui parle tantôt. Parce que vous avez dit tout ce qu'il avait à dire là-dessus. Mais il a dit que j'allais être banni de Radio-Can avec ce que j'ai dit tantôt. Puis j'ai dit, je vais y répondre. Ben, Radio-Can, périr de Québec, là, je veux dire, si t'écoutes la soirée, t'es encore jeune, tout va bien. J'ai pas dit Mongol, fait que c'est correct. Tant que je dis pas Mongol, je serai pas banni de Radio-Can, ok? Fait que, on va continuer avec. Ça, tu vois ça, si jamais ils repassent notre émission là, à Gravel le matin, ils vont jamais mettre cette botte-là.
Incroyable.
David Tom qui fait Darren Nable. Je voulais mettre les enfants parce que, écoute, je vais le dire tout de suite. On va parler des deux enfants ensemble, là, qui est David Tom, Daryl Nable, et Heather McComb qui fait Diana Nable. Sont pourris. En tout cas, moi, c'est ça. Ils sont vraiment.
Non, mais tu sais, c'est des acteurs. Là. Non, mais c'est des acteurs enfants. Tu sais, c'est jamais great, encore moins dans les années 80. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon.
Ça demandé, est-ce qu'ils ont fait d'autres choses, ces enfants-là, après?
Ou avant, François, je suis beaucoup plus rapide que toi. Je suis en train de checker ça en ce moment. Moi, je pense qu'ils ont joué dans des films de cul de genre.
La fille, là, celle qui faisait le rôle de la fille Nable, là, j'étais comme, Khalid, premièrement, elle n'a pas de l'air crédible dans ses faces. Puis deuxièmement, elle avait une espèce d'accent, mais bizarre. On dirait, j'étais comme, ça ne fit pas avec le reste de sa famille. Tu parles avec un accent. Qui
ne
fit pas avec ta famille, en tout cas.
Oh boy, attends une minute. David Tom, là, il a joué, tu sais, dans The Young and the Restless, l'espèce de téléroman.
Mais il a fait plein d'apparitions dans des séries américaines, tu sais.
Dans The Young and the Restless, il a joué dans 300 quelques épisodes.
Il a fait, j'en avais un autre ici, là, Supernatural, mais tu sais, juste des épisodes un à la fois, tu sais.
La fille, elle a fait moins. Lui, c'est vraiment Diane and the Restless qui a fait sa carrière. Là, 310 épisodes, là, à peu près. Là. Non, 300 épisodes, en fait. Mais sinon, la fille, elle a joué dans 2-3 affaires. Là.
CIS Cyber. Elle a joué dans Castle.
Elle a joué dans Beethoven 2.
Dans les deux enfants, la fille, c'était la moins bonne des deux. Mais même le petit gars, là. Il y a des lunettes, c'est un petit génie, c'est correct. Là. On a compris. Mais et quand il perd son basic, c'est même pas crédible là, qu'il est en peine d'avoir perdu son basic.
Au moins, ils n'ont pas fini leur carrière comme acteur de série, de genre film porno, genre de Blue Moon, tu sais? Ça, c'est comme. Mais pas des films de cul, des vrais films de cul, là, des softcore porn qui passent à Blue Nuit. Ça, quand tu finis là, c'est parce que ça va pas bien ton affaire, tu sais. Parlant de softcore porn, Eugene Levy. écoute, je vais y aller en premier parce que je voulais le laisser aller, là, mais là, je peux pas le polémiser, ce gars-là.
Non, mais est-ce que vous avez écouté Dexter?
Non.
Parce que Dexter, comment je pourrais dire ça? Dans Dexter, pour résumer Dexter, OK? Dexter, c'est un tueur en série, deux tueurs en série.
C'est pas un médecin légiste.
Oui, c'est ça, il est médecin légiste spécialisé dans les blood splatter. quand il y a une affaire de sang qui revole, lui, il reconstitue la scène. C'est ça ce qui. Fait que là, bref, c'est ça, lui, il travaille pour la police. Fait qu'il sait c'est qui les tueurs en série. Puis son père, qui lui aussi était un policier. Là, comme quand il a réalisé que son petit-fils allait devenir tueur en série, il a comme conditionné à tuer des malfaiteurs, à tuer des tueurs en série. Fait que le gars, c'est un tueur en série de tueurs en série. Puis il réussit à berner tout le monde. Là. Personne ne le sait que lui-même, Dexter, c'est un tueur en série. Personne ne le sait, sauf son sergent de police, qu'il sait qu'il y a de quoi de weird avec lui. Et son sergent de police, c'est Eric King. Tu voulais parler de Eugene Levy avant.
Ouais, mais okay, parle d'Eric King d'abord. On parlera d'Eugene Levy après.
Puis, bref, Eric King, lui, il le sait. Il le sent. Fait qu'il suit Dexter à tout bout de champ. Puis là, il y a un meme qui circule sur Internet assez populaire qui est. Je vais me permettre de sacrer, là, tu mettras un bip après.
Oh là, mais François, il a déjà fait ça une couple de fois, ça va. Là.
OK. Fait qu'il arrive, puis il dit « Surprise, motherfucker! » Puis là, c'est devenu une espèce de meme sur Internet. Bref, quel personnage incroyable. Mais donc, il fait l'espèce de remplaçant de Spike, du directeur. Comment tu dis ça tantôt? Le directeur de la programmation.
Le directeur de la programmation de l'enfer.
C'est ça. Et il fait son remplaçant. Belle petite performance, surtout quand on sait où est-ce qu'il s'en va après. Tu sais.
Mm-hmm. Oh. Voilà.
Mais j'ai sauté Eugene Levy. Tu voulais commencer par Eugene Levy.
Oui, Eugene Levy, je veux dire, man, c'est, il est tellement cool. Il est tellement. Il est drôle. Il a pas besoin de rien dire, puis il est drôle. Je veux dire, ça passe. Puis moi, ce qui me fascine, c'est comment ce dude-là, genre, il a tout le temps eu de l'air de la même autre affaire.
C'est fou, man, le monosourcil, ça le suit. Là. Pour ceux qui ne savent pas de qui on parle, Eugene Levy, là, c'est le père dans American Pie.
Ouais.
C'est là qu'il a le monosourcil. Là.
Ouais, qui essaie toujours de faire des conseils à son fils, et puis ça, à force de parler, ben, il fait juste s'embourber.
Mais
ça devient pire.
Le dude, il a les sourcils les plus touffus genre, que j'ai vu dans ma vie après Gandalf. Je veux dire, il y a Gandalf, puis il y a Eugene Levy. Mais il est drôle. Il est drôle, il est bright, il a un sens du... souvent, c'est drôle, c'est parce qu'il punch... C'est pas que c'est ligne punch, c'est qu'il a un don d'utiliser le ton de sa voix, qui est quand même, t'sais, il a quand même une voix drôle, pour aller chercher certaines inflexions, certains trucs sur certains mots qui lui permettent de puncher par là. Fait que c'est... Vraiment, puis tu sais, dans American Pie, c'était le gars parfait pour faire ce rôle-là, parce que c'est très ça aussi. C'est le rôle dans Stay Tuned est semblable au père dans American Pie. L'humour, le genre de blague. Mais il est drôle, là. Il est efficace avec des petits bouts dans le film. Là. Il est pas genre là super longtemps.
Il est vraiment pas omniprésent. Là.
Il est pas omniprésent, mais quand même, il est quand même important un peu dans l'histoire. Tu sais, c'est comme le bras droit de Spike qui finit par faire une gaffe à un moment donné, puis il se fait envoyer dans la télé, mais il finit par aider le couple à passer à travers le 24 heures. Puis à la fin, il fait « Ah, vous les avez battus! Hein? »
Écoute,
quand il se casse un doigt, là, ouais. C'est tellement drôle.
C'est un Canadien.
Oui.
Je veux dire quand même, j'ai beaucoup d'admiration pour le gars. Puis il a été récompensé pour ça. Je sais pas si vous saviez, là, mais il a reçu l'ordre du Canada. Puis quand la reine, quand c'était le jubilé pour la reine, je m'en sacre la reine. Mais bref, tu sais. Ça a été une des personnes qui a été invitée, genre, à la rencontrer. Puis, je suis sûr que, au Québec, on a moins tendance à connaître un peu ce qui est Canada-anglais. Là. Mais pour vrai, c'est un gars qui gagne, que vous gagnez à voir, à trouver des trucs dans lesquels il jouait, à l'écouter. Il est extrêmement drôle.
Il a fait beaucoup d'apparitions dans les années 80-90. C'est juste des petites apparitions dans certaines comédies. Moi, je veux dire, un des plus loin que je me rappelle, moi, ça a été le film « Bonjour les vacances » avec Chevy Chase.
Oh!
Je l'ai revu parce que j'ai acheté le coffret avec tous les films « Bonjour les vacances » là, avec le bon vieux « Christmas Vacation ».
Ouais.
Un de mes classiques à Noël.
Ah, c'est le vendeur d'auto, c'est vrai. Là, je viens de le voir.
Le vendeur d'auto dans le premier film.
Je viens de voir dans le truc. C'est vrai, c'est le vendeur de char dans Vacation.
Le film, Bonjour les vacances, j'ai fait « Ah shit, c'est Eugene Levy qui vend l'auto. »
Ouais, le char avec les panneaux.
C'est vraiment drôle aussi là-dedans.
Le station wagon avec les panneaux en bois.
En bois, c'est côté.
Ah non, mais écoute, il est extrêmement drôle. Pas vrai, là. C'est...
Oh oui.
Tu sais, c'est le plus... Les autres personnages punchent pas tant que ça. Tu sais, c'est drôle par l'écriture, pis ça. Lui, là, c'est le... Tu sais, lui, il fait des gags, pis il va, pis...
Oh oui, c'est punché du début à la fin.
Ah! Hey, man, il a toute une carrière, pareil, là. Je regarde ça, là. Il a fait beaucoup de choses, là.
Ouais, mais... Il joue dans une série... dernièrement, il a joué dans une série qui fait le rôle d'un millionnaire, d'un milliardaire qui perd tout son argent puis ils finissent par aller vivre dans un petit village. C'est drôle.
C'est-tu Schitt's Creek?
Ouais.
J'aime le nom. C'est Schitt, S-C-H. T-T. S-C-H-I-T-T.
C'est une couple d'épisodes. C'est quand même pas pire.
Bref, j'aimerais ça quand même continuer à enchaîner parce que j'aimerais ça en arriver à mes questions du geek, les gars.
Il a travaillé fort cette semaine. Tu sais.
Désolé, on parle beaucoup.
En fait, j'ai surtout hâte de passer aux anniversaires. Mais en tout cas, ça, c'est un autre.
Hey, c'est bon. T'es rendu à la fin de l'émission.
Puis en plus, il y a la présentation des films d'octobre que ça va être. Bref, toujours est-il que j'aimerais ça qu'on passe à travers les effets spéciaux. Oh my God! C'est tellement mauvais!
Début des années 90 avec pas beaucoup de budget, je pense.
Hey non, ils ont clairement pas eu beaucoup de budget pour ce film-là, parce que même dans les années 90, ils étaient capables de faire des choses vraiment mieux que ça. Là.
On est quand même en 92, là, mais...
Ouais, mais je pense que c'est un film vraiment à petit budget. Mais, ou bien sinon, le budget a passé dans la séquence d'animation.
Ouais, ben...
Quand ils ont commencé à tourner le film, la séquence d'animation, ça faisait déjà 6 mois qu'ils dessinaient. Mm. Ça a pris. Ils ont commencé vraiment à l'avance, là, parce que, évidemment, la séquence d'animation est vraiment plus.
D'ailleurs,
plus coûteuse.
La séquence d'animation est vraiment bonne.
Ah, elle est vraiment
excellente.
Est-ce que vous savez par qui?
Non.
Chuck Jones.
C'est Chuck Jones qui a fait la séquence d'animation.
Oui, Chuck Jones.
OK, c'est pour ça que c'est bon de même. Si vous connaissez pas Chuck Jones...
Dans l'esprit de Looney Tunes.
Si vous connaissez pas Chuck Jones, avec... Ah, comment il s'appelait l'autre? Ian Freelang, ça?
Ah oui, Freelang.
Freelang et Chuck Jones ont fait des dessins animés absolument magnifiques. Mais Chuck Jones, c'est un des grands maîtres de Looney Tunes puis tout ce qui est ce style de dessin animé-là. Regardez ce qu'il a fait. Là. Googlez Chuck Jones, vous allez voir ce qu'il a fait, vous allez faire comme « Wow! » Mais c'est vraiment, vraiment très bon. Là. Du film, la section animation m'a vraiment marqué. Là.
Oui.
Ah, c'était vraiment de la très très grande qualité.
Moi, c'est une de mes scènes préférées du film.
Oui, puis les décors, les costumes, évidemment, c'est aussi petit budget que le reste, c'est-à-dire,
cheap. Mais écoute, cheap. C'est vraiment, tu sais, la télé qu'il y avait, là, j'étais comme, wow, c'est tellement, genre, années 90, là. Puis tu sais, quand il y a la petite télé, là, moi, là, quand j'étais, ça, c'est drôle, là, j'étais au conservatoire, là. Fin secondaire, peut-être. Non, peut-être fin secondaire, ouais. Fin des années 90, j'avais une petite télé comme ça, mais en noir et blanc. Avec des oreilles de lapin, là, puis j'avais ça dans ma chambre.
Là, sur mon bureau. D'écouter les canaux embrouillés. Ouais, c'est ça,
je me crossais en regardant
les. Il n'y avait pas de canaux embrouillés sur les oreilles de lapin. Non, David.
Ça, c'était une autre place. Mais écoute, j'écoutais genre le hockey pendant que je faisais mes devoirs en noir et blanc sur une télé qui était grosse de même, man.
Ton cellulaire est plus gros que ça,
c'est ça. Ah, man.
Moi, ma première télé au cégep était un petit peu plus grosse que cette télé-là, mais était aussi en noir et blanc.
Ah, man.
Pendant mes deux premières années de cégep.
Je montrerais ça à mes enfants, ils me diraient c'est quoi un micro-ondes, un toaster? C'est quoi, non, une télé. C'est pas comme la 40 quelques pouces qui est dans le salon en ce moment-là. Télé 40 pouces dans ce temps-là, c'était un meuble, tu sais.
Ouais, vraiment. Hey, ça pesait une tonne en plus. En tout cas. Bon. Dernier commentaire, Sébastien?
Ben écoute, je l'ai écrit dans les show notes. Vraiment, là, c'est un plaisir coupable. Je vais en reparler dans ma note à la fin, là, mais je pense que ça vient de rentrer dans cette catégorie-là. Là. On va y aller avec la question du geek.
Yeah. Sébastien.
Oui.
François.
Oui. Oh, yeah.
J'ai une question pour vous deux, les gars, aujourd'hui.
Oh, shit.
Par contre, vous allez partir avec un handicap.
Fuck.
OK? Donc, pour le score de cette question du geek, à chaque fois que vous me donnez une bonne réponse, je vous donne un point, mais vous partez à moins 2. Okay? Je vous donne un malus de 2 drette en partant. OK?
Merci.
Ma question est la suivante. Dans le film Stay Tuned, il y a beaucoup, 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 beaucoup de parodies, de caméos. Nommez-moi des caméos qu'on retrouve dans Stay Tuned.
Donc,
à quoi est-ce que ça fait référence? Comme vous êtes deux, je vous en demande 12.
Bon, ben on va passer aux extraits. Non, mais...
Non, mais ça va vite. On a parlé déjà de plusieurs.
De caméo?
Ah, de caméo. Attends, ben
oui, aussi, des jokes, là, de
parodies, là. C'est de choses qui ont été...
Ah, mais il y a des jokes de... Voyons, mettons, il y a...
Wayne's World.
Il y a L'Exorciste.
L'Exorciste.
Le Silence des Agneaux. Star Trek.
Ah oui, il y a Star Trek. Ah, oh, man, c'est...
Crash Test Dummy.
Excuse-moi, François?
Et Crash Test Dummy.
C'est quoi le truc du gars? Man, le gars qui est gelé, mais, ben pas qui est gelé, mais en hiver. C'est quoi, ça?
La séquence Far West, un film de Sergio Leone.
Oui, ça je l'accepte aussi.
C'est quoi le truc de Max Hell, là, tu sais, avec le pam-pam-pam-pam? C'est une parodie d'une affaire, là, aussi. Tu sais que le gars il est assis devant sa télé puis sa tête explose, là?
Ah oui. C'est Maxell.
Maxell? C'est genre ouais, les cassettes, là.
Maxell.
C'est une parodie d'une pub de Maxell, là, c'est ça? Ouais.
Je vais l'accepter.
Vous
êtes rendu à 7. Il en manque 5.
Shit. Man.
Ben, la séquence d'animation, c'est une parodie.
C'est une parodie de Looney Tunes.
Et voilà, c'est bon.
Il y a le show de télé qui est... C'est-tu le... Non, c'est pas le Match Game, c'est le... Newlywed. Attends, comment ça s'appelait, cette série-là? L'émission de télé, là, au son début, là, le jeu de télé qui s'appelle You Can't Win.
You Cannot Win.
Ouais.
You Can't Win.
Mais c'est quoi, le...
Je sais pas c'est quoi, c'est... Mais sinon, il y a Three's Company.
Oui, Three's ouais. Company, oui.
Ben, c'est sûr à cause de John Ritter.
Ah oui, puis en plus que John Ritter reprenne son rôle de Jack.
C'est hot, le truc de Three's Company en plus. il y a le film qu'il regarde. Tu sais?
Oui!
Le film qu'il regarde. Ça en est un bon. C'est quoi le nom de ce film-là? Ouais. En tout cas.
Ah, je sais pas.
Il y a entre autres Doctor Strangelove.
Oh boy, ça,
oh
je l'aurais
boy.
Ça, je vais vous le donner. Là, mais ben, c'est un des films qu'il regarde.
De
ça, donc, il en manque deux. Là, vous êtes à 8 sur 10.
Man, attends, il y a. Ah, c'est quoi le truc là, de mafia?
Ouais, non, mais ça, je sais pas. Ça doit être une affaire de Humphrey Bogart.
Ah, c'est clair, c'est le genre de série, là, la Humphrey Bogart, là, les trucs de genre, un peu le film noir, là.
Parce qu'il ouais, qui est en fait Doctor Strangelove.
Ah, ok, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ah, puis il nous manque le truc de loup, là, avec les loups, là. C'est quand même pas Dances with Wolves, là.
Non.
C'est plus tard.
Ici, j'ai Wayne's World, Silence of the Lambs. Ouais, ça, je dirais pas.
Le truc où le gars se fait bouffer par les loups.
Northern Exposure,
ouais. C'est dans la... Ouais, c'est vrai, dans le truc, c'est Northern Overexposure.
Et voilà, c'est exactement ça. Et donc, les gars, pour en arriver à 10 sur 10, il vous en manque un.
Ah, merde, il manque quoi?
Puis il y en a plein d'autres que vous avez
pas ouais, vu. Il y a le clip de Salt and Pepper, là, genre de Salt and ouais. Pepper.
La ça a toune. Été fait pour le film, je
ouais,
pense.
Ouais, c'est ça. On a fait le western. Hey man, ils s'en vont où là? Il y a de la lutte.
Ok, je vais vous donner.
Il y a de la lutte là,
maintenant.
Comment? Mais, il y a de la lutte à un moment donné.
Et voilà.
WWF.
Ben oui, la lutte. Comment ça s'appelait? C'était Couch Potato Man.
Ouais.
Donc, pour passer rapidement à travers la liste que j'ai ici devant moi, là, rapidement, Wayne's World, The Silence of the Lamb, Three Men and a Baby.
Oui, c'est vrai.
Oh, c'est vrai. Three Men and the Rosemary Baby.
Rosemary's Baby.
Rosemary's Baby, oui, c'est ça. Ensuite de ça, il y a The Dukes of Hazzard.
Oui.
Driving Miss Daisy.
Oh oui, Driving Over Miss Daisy.
Driving Over Miss Daisy.
C'est hallucinant,
Northern
ça,
Exposure, pour qui ont transformé en Northern Overexposure. Ensuite de ça, il y a Lifestyle of the Rich and Famous.
Ouais.
Qui ont changé pour Autopsy of the Rich and Famous.
Ah oui, Autopsy of the Rich and Famous.
Après ça, bon, L'Exorciste. Murder, She Wrote. She Wrote, qui ont changé en Murder, She Likes. Leave It to the Beaver.
Ah oui, Leave It to
the Beaver. 30-something.
Ouais.
Puis ils ont changé ça en 30-something to life.
Ouais.
De prison. Beverly Hills 90210. I Love Lucy, qui ont transformé en I Love Lucifer. The Golden Girls, qui ont transformé en Golden Ghouls. Married with Children, qui ont changé en Unmarried with Children. Fresh Prince of Bel-Air, qui ont changé pour Fresh Prince of Darkness. The Facts of Life. Qui ont changé en Facts of Life Support. Three Sons, qui ont changé en Three Sons of Bitches.
Oui!
Different Strokes. Ensuite de ça, il y a eu la WWF, Star Trek The Next Generation, Doctor Strange Love, les Looney Tunes, Home Shopping Club.
Ouais.
Et puis, plusieurs pubs de télévision. Voilà, bravo les gars, 10 sur 10!
Êtes-vous prêt?
Oh oui!
Je me suis gâté parce que là, ça faisait une couple de semaines que c'était pas riche en extraits. Fait que je m'en prends. Ça va alors la peine.
Moi d'ailleurs, c'est le dernier qui m'intrigue. Toi, François, as-tu accès à nos show notes?
Mais non!
Il est supposé d'avoir accès. Faudrait que tu retrouves le lien que je t'ai envoyé il y a comme une l'année passée.
Le 16 octobre. Je suis allé voir tantôt, Jazz. On a enregistré ça le 16 octobre 2016.
Ben...
Mais de toute façon, je vais dire tous les noms d'extraits.
Ça va être trop long, je pense.
Le premier, là, écoute, les deux premiers, c'est le petit couple de vieux au début du film. Je les aimais tellement, là.
avec la madame qui se fait écraser par
oui,
Godzilla.
J'aurais...
La parodie de Godzilla, on l'avait sauté.
Ouais, c'est vrai, on l'a oublié. J'aimerais ça. T'sais, j'aurais vu, j'aurais aimé ça voir le film sur eux. Puis là, ça, c'est le premier, c'est le beurre.
Need more butter.
You talk to the fish.
Butter.
Moi, j'aime le vieux qui est juste « butter,
butter, butter,
butter. » Puis là, le deuxième, c'est la porte.
« Murray, get the door! »«
I've just grown out of these trips. »«
Butter,
the door. »« Sorry, but I don't want
to
be the... »
Tu sais, ce que j'aime, c'est qu'il a... Elle dit « get the door! » Mais là, « butter, door. » Tu sais, il est comme vraiment...
Un beau mari bien soumis.
Ah, man. Ah, oh, Bill Cosby, man. Bill Cosby. Oh, on est en 92. Mais, man, en tout cas, check à qui compare son père.
In describing my dad, several names come to mind. Bill Cosby.
Ça veut-tu dire qu'il donnait des pilules pis qu'il violait, tu sais, qu'il violait? Je sais pas, man. Je sais pas.
Ouais. On parlait justement comme ah, Jeffrey Jones avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, ben ça c'est Bill Cosby, c'en est un autre qu'on a appris ça. Ouais.
Ben tu sais, Bill Cosby dans les années 80-90 avec le Cosby Show représentait le papa. C'était le papa parfait.
C'était le père parfait.
Non, le gars, man, il mettait des roofies dans les drinks des filles puis. Il faisait des annonces de Jello. Bon, on sait pas qu'est-ce qu'il mettait dans le Jello. Il va avoir beaucoup de. Tu sais, les émissions là, qui ont parodié, puis les pubs qui font d'entrée. Il va en avoir beaucoup qui s'en viennent. Ça, là, le prochain, ça c'est une bonne émission.
You're on
Statistic Hidden Videos?
Statistic Hidden Videos?
Oui.
Hey, c'est vraiment chien, là. T'sais, il va voir la madame et dire.
Ah non, mais c'est. Épouvantable cette scène-là. Ah, là, ouais. Ils la font pleurer juste pour la faire pleurer. La madame, là, votre mari est mort. Quoi, mon mari est mort?
Puis là, après ça, voyez la caméra derrière. Mais t'es à Statistic Hidden Video. Oh! Puis c'est toi, Bill!
Ouais, mais le nom de l'émission, Statistic Hidden Videos. Man, c'est ça qui rend ça drôle. C'est les noms qu'ils ont donnés aux émissions, là. Une autre bonne émission, OK?
How did James Dean really die? Find out tonight on Autopsies of the Rich and Famous.
Oh. c'est le présentateur aussi qui vend ça, man, sa voix, là. Une autre.
Ah oui.
Je regarderai ça, man.
Welcome to Northern Overexposure, the story of a young doctor from New York who comes to Alaska, complains about everything, and freezes to death.
C'est le complains about everything and freezes to death. ça, là, pour vrai, le film, là, ça vaut la peine de voir ce film-là juste pour ces affaires-là.
Hey, non, oui, désolé.
Non, mais c'est ça qui fait le film.
Ouais.
Il manque spécial au narrateur, celui qui fait les voix, la voix qui présente les émissions.
Ouais,
il est vraiment bon.
Le prochain. Miam.
Man, I'm getting dizzy. I could hurl.
No, no, chew it back, man. Chew it back.
Ça, c'est Wayne's World.
C'est ça? Ouais, c'est Wayne's Underworld.
Wait, no,
Wayne's Underworld.
Ouais, puis ça fait partie de Saturday Night Dead. Au lieu de Saturday Night Live, tu sais. prochain, c'est vrai.
Roy Nabel, private dick. Better than being a public dick.
Moi, j'aime bien toute l'affaire avec le fusil qui se met dans les pantalons. Et puis que... Oh!
Ça, c'est vraiment... T'as-tu encore renversé ton fusil?
Non, ouais, c'est ça. Did you drop your gun again? Mais, pas pire. Ça, c'est pas pire.
And now, get in shape with the exercises.
Mais tout ce truc-là, tu sais, quand elle se met à tourner la tête, là, là à la fin, tu l'entends, puis elle dit « Now vomit! »
Okay.
Ça, je pense que c'est un de ceux que j'ai trouvé drôle, là, aussi.
Hey, kids! Now there's a new beer just for you. It's got no alcohol, but it'll make you act just like your dad.
Now give me another one, babe.
That's my boy.
Yogi Beer, you'll be just like your dad.
Yogi Beer.
Ça m'a fait me rappeler d'une joke que j'ai pas compté encore à Vision X, mais je pense que c'est celle-là que je vais dire.
Ok. Et pour terminer, ça là, ça, écoute, c'est débile. Ça fait 25 ans là, de ça que c'est sorti ce film-là. Ça a été fait probablement il y a 26 ans. Là, t'sais. Il savait déjà ça allait parler de quoi à Vision X, ok?
It's an epigrama of love, danger and cross-dressing.
Exactement comme Vision X.
Cross-dressing. Ok, j'avoue, des fois on fait l'épisode puis on est en pyjama là. Ok, mais je porte mon pyjama à moi. T'es en train de me dire, Sébastien, que
un bon, ouais, moi j'aime ça là. J'ai une citation de Tim Minchin dans ma tête là, tu sais, with lace between my bum. Mais vous écouterez Tim Minchin. Ok, musique.
Cue the music.
J'aime la musique.
Moi, ce qui m'a fasciné de ce film-là, tu sais, François qui avait parlé de ça, comédie des années 90. Moi, je m'attendais à la musique de comédie des années 90. Mais non! C'est Bruce Broxton qui a écrit la musique de ce film-là.
C'est très bon.
Vraiment bon!
Ben, surtout la musique de générique. Une chose que je trouve vraiment drôle, c'est qu'à l'époque, il y avait des génériques d'ouverture d'un film, tu sais, ce qui n'existe plus vraiment. Tu sais. On n'en voit plus de ça, des génériques d'ouverture. Mais la musique du générique d'ouverture est vraiment bonne, puis elle est vraiment intense.
Oui. Oh oui, puis avec l'animation qu'il y a au début, c'est simple. Il n'y a pas grand-chose. Tu as juste une télé avec un sourire.
Ouais.
Mais tu sais, ça marche, là. Puis, moi, personnellement, je ne me rappelais même pas de la musique. Quand j'ai revu le film cette semaine, j'ai fait « Wow, ça sort d'où cette musique-là? » Je me suis mis à chercher c'était qui le compositeur. J'ai fait « Oh, OK, oui, Bruce Broxton. »
Bruce Broxton, c'est un très bon compositeur. Malheureusement, je trouve qu'il n'a pas été assez utilisé. T'sais. On n'en a pas assez... Mais écoute, la musique de la scène, justement, c'est le dessin animé, là.
Oui.
C'est bon.
Ah, c'est,
c'est bon. T'as l'impression d'être de retour dans les années
40-50. Ben, c'est ça. Il a entièrement bien repris le genre de musique que le compositeur des Looney Tunes faisait. Là. Non, au niveau de la musique, que ce soit même le générique, même dans
ouais.
tout ce qui est dans le film aussi, la musique d'ambiance aussi, ça marche.
Ben, c'est
bien.
La musique pour toutes les séries, tous les trucs que tu vois. Tu sais, quand ils sortent, dépendant d'où ils sont. Dans quel genre d'émission ils sont, la musique est différente. Mm-hmm. La musique vite toujours à ce qui se passe. Là. Je pensais qu'elle allait avoir musique de Silverado.
Mais c'est vraiment une grosse commande pour un compositeur de réussir à être aussi versatile dans tous les styles. Puis ça change à toutes les 5 minutes sur un film de 2 heures. Là. Ben, je sais pas, c'est 2 heures, là, mais.
Non, 1h26.
Bon, 1h30, tu sais. Fait que vraiment bravo. Là, c'est toute qu'une commande. C'est vraiment toute qu'une commande.
Bon, messieurs,
c'est l'heure de vérité.
He scores!
On va commencer par notre invité François.
Écoutez, moi, je vais y donner une note. Je sais que David n'aime pas les points 5, mais moi, j'aime beaucoup me donner des notes en points 5. Donc, j'y donne un bon 8.5. C'est une comédie. Oui, c'est une comédie assez simple. Des années et clichés des années 80-90, mais ça marche, comme on le dit, le rythme n'est pas ennuyant. Les comédiens, OK, sont corrects, mais tu sais, il y en a qui vont un peu plus haut que d'autres, mais tu sais, c'est un film qui dure 1h30. Moi, je suis content de voir réécouter ce film-là et je suis content aussi de vous l'avoir fait découvrir et je recommande à tout le monde de trouver ce film-là qui est pas facile à trouver, mais type comme ça, YouTube, il l'a au complet.
Ouais.
Ah ouais.
C'est là-dessus que je l'ai écouté.
Aussi.
Et tapez Stay Tuned sur YouTube, regardez ce film. Ça, si vous ne le connaissez pas, si vous le connaissez, si vous allez redécouvrir un film de votre enfance, oubliez, parce que je trouve que ça fait partie des films oubliés mm-hmm. qu'on ne parle pas comme grand classique de cette période-là.
Sébastien?
Voilà. Moi, j'ai donné 7 sur 10. Puis 7 sur 10, pour moi, c'est une très bonne note. Puis je dirais qu'à force de donner des notes à des films à Vision X, puis t'sais, c'est parce que j'écoute pas juste des films de Vision X. Là. J'écoute d'autres films. Là. Fait que ça fait que dans une année, j'en écoute beaucoup des films. 7 sur 10, c'est une très bonne note. C'est un bon film, là, à 7 sur 10. C'est une bonne comédie. Oui, il y a des faiblesses, oui, des affaires, mais ça vaut la peine d'être vu. C'est vraiment quelque chose que si vous l'avez jamais vu, ça va devenir un plaisir coupable. Si vous l'avez déjà vu, vous l'avez un peu oublié, ça va devenir un plaisir coupable. C'est pas un grand film, mais maudit que c'est le fun à regarder, là.
Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est j'ai ri du début à la fin. Je me surprenais moi-même comme quoi que je riais, que je pouvais rire encore après ce film-là. Là, j'en revenais pas. Là.
David?
Moi, j'ai donné la note de 7 sur 10 aussi. J'abonde dans ton sens, Sébastien. C'est sûr que c'est pas un grand, grand, grand film. Ceci dit, François, je suis vraiment heureux que tu nous l'aies fait découvrir. Je suis vraiment heureux d'avoir écouté ça parce que je connaissais pas du tout ça avant. Mais 7 sur 10, c'est vraiment une bonne note, là. Est-ce que c'est un grand classique? Non. Est-ce que j'ai ri? Oui, beaucoup. Est-ce que j'ai aimé ça, écouter ce film-là? Oui. Est-ce que je le réécouterais? Oui, aussi. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Sans que ce soit vraiment dans mon top 3, mettons, des plus grands films. Là. Mais j'ai adoré ça. J'ai adoré ça.
J'avoue que mon 8.5 est beaucoup de nostalgie retrouvée.
C'est correct, ça. J'ai pas de problème avec ça.
Je le maintiens.
C'est correct, François, c'est d'où les professionnels. Fait que t'as le droit de mettre ce que tu veux, ça va. Non, David, salutations, anniversaire.
Écoute, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. C'est d'abord le 25 septembre, c'est l'anniversaire du seul, l'unique, le grandiose Mark Hamill.
Oh! Oh!
Ouais, c'est l'anniversaire de Luke Skywalker. Le 25 septembre, c'est aussi l'anniversaire du seul, unique Will Smith.
Oh!
C'est aussi l'anniversaire de Catherine Zeta-Jones
oh. Oh.
et de son ancien mari Michael Douglas.
Ah oh, ouais, t'as ben ouais.
Ensemble.
Ben, c'est parce que Michael Douglas est décédé. Hein, fait que...
Michael Douglas est décédé, non.
Hein? Michael Douglas est pas décédé.
Ah ben non, toi, je suis sûr qu'il était décédé.
Son père est encore vivant, non?
Ah, je sais pas.
Kirk Douglas est encore vivant?
Je sais pas. Ah ouais, non, il y a 73 ans aujourd'hui, monsieur Michael Douglas.
Le segment mort ou vivant.
Ouais, c'est ça. Ah, il est encore vivant, Kirk Douglas, aussi, il y a 100 ans.
C'est aussi l'anniversaire de Michael Madsen.
Ah oh, ouais!
Qui est
ouais.
De film de
joue dans tous les films aujourd'hui.
Ouais, il faisait un des... dans Kill Bill, il faisait un des...
C'est ça.
Il est tué.
C'est aussi l'anniversaire, ça aurait aussi été l'anniversaire aujourd'hui de Christopher Reeve, notre Superman des années 80. C'est aussi l'anniversaire de Zach Woods qui joue Gabe dans The Office US. évidemment, vous le savez, ma série fétiche de tous les temps. Il y a aussi des plus petits anniversaires. Chris Owen qui a joué dans American Pie.
Okay, ouais.
Bref, c'est l'anniversaire de beaucoup, beaucoup de gens. Mais un gros bonjour tout spécial et bien senti à Mark Hamill.
Ah ouais, écoute, Mark Hamill, on l'aime. Il est drôle. Ouais. Il est drôle.
C'est aussi Jamie Hyneman, le gars de...
Ah ouais, des Mythbusters.
Mythbusters, ouais, c'est ça, celui-là avec le Pirel.
Tu me fais penser à quelque chose, David. Là, tu parlais de Star Trek. Wow, attends une minute, mon ordinateur vient de s'éteindre. OK, vous êtes revenu. Tu parlais de Star Trek Discovery. Là. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis en train de faire une affaire live, là. Je te mets en the spot. Si on faisait un petit truc pour nos patrons, là, pas très long. On donne nos impressions de Discovery. Je vais écouter le premier épisode. Tu l'as déjà écouté? Cette semaine, on fera une petite affaire pour nos patrons. Ça vous tente
oui, les patrons? Hein? Moi, je suis partant pour ça.
Bon, fait qu'on va faire.
Si on se trouve du temps, parce que je pas mal occupé.
On va essayer de faire 10 ouais. minutes, là, tu sais, juste pour nos patrons, donner nos impressions de Star Trek Discovery. C'est affaire de même. Ouais, on vient de vous donner un cadeau en direct. Là. Justement,
en parlant de cadeaux en direct.
Si vous voulez savoir ce qu'on a pensé de Star Trek Discovery, allez sur patreon.com/sbalbino. $1 par mois. Avec $1 par mois, vous allez pouvoir nous aider énormément. Vous allez avoir accès à du contenu exclusif, dont l'épisode qu'on a fait sur une trame sonore ce mois-ci. On a parlé de la trame sonore de Star Trek, de Motion Picture. On va en faire un autre. On va essayer de vous trouver une trame sonore. Prochain épisode, on va vous parler c'est quoi la trame sonore.
Puis d'ailleurs, j'en ai une, il faut que je t'en parle, Sébastien. J'ai une proposition.
Nice. Donc, patreon.com/sbalbino. Le mois de la semaine prochaine, on change de mois, le mois d'octobre. Qui dit mois d'octobre dit Halloween. Donc, pour le mois qui s'en vient, je vous propose un mois d'Halloween. Écoute, j'ai mis 5 films là. Si un de nos patrons qui a donné 10$ par mois, parce qu'il reste juste 3 mois, là, octobre, novembre et décembre. Fait que s'il y a des patrons, vous vous manifestez. Soit je vais changer un film, soit si vous voyez un film dans la liste que je donne, vous faites comme... Ah ouais, moi je veux parler de ça. Vous pouvez embarquer. Je me suis dit, Halloween, horreur. Mais pas n'importe quel style d'horreur. Comédie d'horreur, ok? On va commencer la semaine prochaine avec Little Shop of Horrors.
Dans les années 90, moi j'étais au secondaire, puis en secondaire 5. En fait, chaque année, on faisait une comédie musicale. Puis quand j'étais en secondaire... Non, pas en secondaire 5. Quand j'étais en secondaire 2... Oui, en secondaire 2... La première comédie musicale que j'ai faite, à laquelle j'ai participé, c'était The Little Shop of Horrors. Je suis un connaisseur de cette œuvre. Gare à toi, Sébastien, pour la question du geek.
Oh, yes! Le deuxième film, un grand classique des comédies d'horreur, Beetlejuice.
Mm-hmm. Ça, j'avoue que c'était une demande spéciale de moi-même. Je me suis dit que ça faisait tellement Halloween, puis que... Il fallait
qu'on bon film.
Là. Mais quand tu m'as dit ça, c'est de là que tous les autres films ont découlé. Le troisième film, Gremlins.
Ah oui!
Le quatrième, Young Frankenstein.
Ça va être beau, ça.
Et pour l'Halloween, on vous offre Ghostbusters 2. Donc... C'est le mois d'octobre pour Vision X. Little Shop of Horrors, Beetlejuice, Gremlins, Young Frankenstein et Ghostbusters 2. Parce qu'on a fait le 1 l'année dernière. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Je pense que c'est pas pire. Si jamais un patron qui veut embarquer, parce qu'à 10$ par mois, nos patrons ont le droit de participer à un épisode comme François Gagné en ce moment. Comme je vous dis, soit vous embarquez ou soit vous pouvez demander un autre film, je vais en enlever un puis je vais le remplacer par le vôtre, sans problème. Là-dessus, François, j'aimerais te remercier non seulement d'être là ce soir, mais évidemment, j'aimerais te remercier de ta contribution à Vision X depuis, ma foi, plus d'un an.
Ouais.
Je veux dire, on fait Vision X parce qu'on aime ça, mais Vision X, c'est pour pouvoir le faire, on a besoin de gens comme toi, parce que sinon, on n'aurait pas les moyens de vous offrir ce contenu-là à tous les mois. Fait que merci beaucoup, vraiment, François. Là. Puis je trouve que ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui donnent la valeur à ce qu'on fait. Fait que merci vraiment du fond du cœur.
Merci, François.
Ça me fait plaisir, puis ça va me faire plaisir de continuer à vous supporter, les gars. Vous faites une super bonne job. Je manque pas un épisode par semaine. Des fois, je les écoute un peu plus en retard, soit manque de temps, mais je finis toujours par me rattraper. Puis à chaque fois, ben, je vous écoute, puis j'entends des... Tu sais, je vous entends raconter des choses, je suis comme, ah ouais, je connais ce que vous racontez ou pas, puis sinon, ben, ou sinon, je gueule dans mon cocon au travail en disant, non, c'est pas ça! Non, bon job, faites bien ça, vous êtes drôles aussi en même temps. Puis c'est toujours même un plaisir de venir jaser avec vous autres aussi une fois par année. Non, j'aime ça. Puis moi, ça me donne le goût de partir éventuellement un podcast, là, en tout cas.
Ouais, hein, François.
Mais. janvier.
Merci à toi, David, qui, comme chaque semaine, est là pour dire des niaiseries avec moi devant un micro.
Je sais, Sébastien, je suis toujours partant.
Là-dessus, je vous souhaite à tous et à toutes, en fait, on va vous remercier, hein, le public, qui vous êtes là à nous écouter, parce que hein, un podcast, pas de gens qui nous écoutent, c'est un peu plate. Hein. Fait que merci de nous écouter, et on se reparle la semaine prochaine.